Bonjour mes frères et sœurs. Vous vous rappelez que je vous ai dit que bientôt je vais arrêter sur cette page Révélation Bible de Facebook. Et je vous invite encore à vous inscrire sur la newsletter du site Révélation Bible, en un mot, révélationbible.fr. Et je vous invite vraiment à vous inscrire si vous voulez nous suivre. Si vous voulez pas nous suivre, bon ben tant pis. Mais si vous voulez me suivre, il va falloir vous inscrire là, parce que d'ici 3 semaines, je vais arrêter avec Facebook. Voilà. Donc on va lire ce matin, aujourd'hui, dans Néhémie chapitre 8, versets 8 à 12. C'est le moment dans l'histoire d'Israël où ils ont retrouvé les livres saints, et les prêtres ont réuni le peuple, et il nous est dit là, ils lisaient distinctement au livre de la loi de l'Esprit des vivants, et ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Donc les prêtres expliquaient les Saintes Écritures au peuple qui était réuni là. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur, et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dirent au peuple: « Ce jour est consacré à l'admirable, notre esprit des vivants. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et ils leur dirent: « Allez, mangez des viandes grasses, buvez du vin doux, et envoyez des portions, des cadeaux à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre souverain. Ne soyez donc pas affligés, car la joie de l'admirable est notre force. » Et les Lévites, les religieux, calmèrent tout le peuple en disant: « Faites silence, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Ainsi, tout le peuple s'en alla pour manger, et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, et que vous puissiez en tirer un bénéfice pour votre vie personnelle. Je reçois beaucoup de petits mots qui me disent que c'est pas facile en ce moment. Je sais que c'est pas facile en ce moment, et je voudrais vous encourager. Je disais dernièrement à un ami que Jésus nous a envoyé pour annoncer son évangile, et le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et quand on lit les 4 évangiles, on s'aperçoit bien que chacun, à sa manière, prêche la bonne nouvelle, le bonheur, la joie. Mais curieusement, le christianisme ne respire plus vraiment la joie. Aux yeux de la plupart des gens, et tout au long des siècles, le christianisme ne respire plus vraiment la joie. Les gens, en majorité, prouvent que la note dominante des religions chrétiennes a été le mépris de toutes les choses de la terre, et l'exaltation de la souffrance, des larmes. Ben, c'est pas tout à fait ce que nous venons de lire là, hein. Il leur dit: mais non, attendez, la parole de Dieu, c'est vrai, elle a des exigences, mais ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, réjouissez-vous, mangez, buvez du vin. De nos jours, les évangéliques luttent contre cette tendance à la morosité, à tel point qu'ils en sont arrivés à l'opposé, on peut dire, hein. Ils ne retiennent plus que dans le christianisme que le côté positif de la louange, l'épanouissement de soi. J'ai même lu une fois s'éclater dans le Seigneur. On s'éclate dans le Seigneur. Voilà, c'est une façon de parler d'aujourd'hui. Alors, quel est le juste milieu? La joie ou le renoncement? Parce que c'est vrai que la Bible nous parle des deux. Quelle est la part? Quelle part on doit donner à ce qui est terrestre? La santé, hein, le divertissement, la nature, le travail, les relations humaines. Quelle part est-ce qu'on doit donner aux joies spirituelles? Le salut, l'amour de notre Père Céleste, l'espérance, toutes ces choses. Qu'est-ce qui nous aide à puiser notre force dans la joie de l'Éternel? Parce que c'est ce qu'on lit dans la Bible, la joie de l'Éternel. Jésus était équilibré. Dans Ésaïe 53, 3, il nous est dit qu'il était habitué à la souffrance. Avant de venir sur cette terre, il a accepté de venir naître dans une famille toute simple d'artisans. Et je pose la question, quel poids auraient ces paroles « Ne vous inquiétez de rien » qu'on trouve dans Matthieu 6, 34, s'il avait fait partie d'une famille aisée ou avec une petite cuillère en argent dans la bouche, hein? La Bible nous apprend qu'il a été le premier-né d'une famille nombreuse, une famille d'artisans, et il a dû mettre la main à la pâte très jeune pour aider son père adoptif, pour aider Joseph. Et d'après les Écritures, on comprend que Joseph est décédé assez tôt, donc Jésus est devenu assez rapidement, en quelque sorte, le chef de famille, le responsable. Il devait pourvoir aux besoins de sa mère et de ses 6 frères et sœurs. Quoi qu'on dise les religieux, il avait quand même 6 frères et sœurs, hein, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Son travail ne lui laissait sans doute pas beaucoup de temps pour s'amuser, pour faire la fête. Et ses compatriotes, en fait, ils ne le connaissaient que comme le charpentier fils de Marie. On trouve ça dans Marc 6, 3, c'est-à-dire que voilà, Joseph devait être mort déjà assez rapidement. Il était le charpentier fils de Marie. Marc 6, 3. Les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, se méfiaient de lui parce qu'il n'avait pas étudié. Hein, Jean 7, 15. Il n'avait pas fait comme Paul des études au pied de Gamaliel. Il était resté dans son bled à faire son métier de charpentier. Il y en a qui nous disent qu'il est parti en Inde. Non, mais tout ça, c'est des fables. Il est resté, tous ses compatriotes, ceux qui le connaissaient, savaient qu'il était le fils de Marie, le charpentier. Et quand il s'est lancé dans le ministère, sa famille n'a jamais été vraiment un soutien matériel pour lui. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Il vivait de la charité des uns et des autres. Il y avait quelques femmes aisées qui soutenaient son ministère. Et un jour, le jour où il a commencé à prêcher, il a renoncé aussi à avoir un chez-soi. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Il est devenu ce qu'on appelle un SDF. Un jour, il y a un jeune qui voulait devenir disciple. C'était un candidat à être disciple, et il a freiné son enthousiasme en lui disant « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, le fils de l'homme, j'ai pas un lieu pour reposer ma tête. » Alors vous voyez, le « ne vous inquiétez pas du lendemain », c'est une chose qu'il vivait, qu'il mettait en pratique. Le jour où on lui a demandé de payer l'impôt du temple, il était obligé de faire un miracle pour se procurer l'argent. Vous voyez, Paul écrit, de riche qu'il était au ciel, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. C'est-à-dire qu'il a vécu dans les difficultés pour nous montrer que les difficultés matérielles et les privations ne sont pas un empêchement à une action spirituelle féconde. Il a voulu nous montrer que nos difficultés matérielles doivent être solutionnées spirituellement par notre foi, par notre confiance totale dans le Père Céleste qui va pourvoir à tous nos besoins, c'est vrai. Mais comme je le disais hier à un de mes amis, Dieu est le Dieu de la dernière minute, il agit toujours au dernier moment et des fois c'est un peu stressant. Mais il nous dit « ne vous inquiétez de rien hein. ». Dieu qui nourrit les oiseaux, est-ce que vous valez pas plus que les oiseaux? Il va prendre soin de vous. Matthieu 6, 26. Jésus, il a démontré que des conditions matérielles défavorables ne sont pas forcément un handicap à une action efficace. Elles peuvent, les situations difficiles, au contraire, nous pousser à rechercher une communion plus intense avec Dieu. Et c'est là ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui de ce que j'ai dit dans ce moment. Et je prie pour vous afin que, du sein de votre difficulté, vous puissiez chercher la face de Dieu et trouver la solution, et il va pourvoir à votre besoin, c'est sûr. Ne doutez pas et restez dans la paix, dans la joie de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.